Bonjour à tous. Alors pour commencer ce temps de méditation, je voudrais juste faire une petite lecture courte dans le livre du Lévitique, au chapitre 25 et au verset 35. Le livre du Lévitique, on n'y va pas forcément très très souvent. Moi, j'étais en train de lire un des chapitres là en suivant, on est plein de lectures, et puis je suis tombé sur ce verset qui nous dit « Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. » Et quand j'ai lu ce verset-là, j'étais peut-être un peu naïf, je me suis dit « Ah, ça me parle ce verset, je vais aller le partager, tiens, sur Facebook, un truc comme ça. » Et puis, il y a eu deux, trois petites réactions. Et en dehors des quelques likes, j'ai aussi eu trois commentaires. Et trois commentaires qui viennent de trois personnes qui sont chrétiennes, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont engagées avec Dieu. Et le premier commentaire que j'ai eu, c'est quelqu'un qui voyait un message d'amour là-dedans, ça faisait plaisir. Mais les deux autres commentaires que j'ai eu, par contre, ils se sont empressés là de trouver des conditions et des limitations pour pas surtout appliquer ça forcément à tout le monde et pas trop facilement quand même. Alors, on va dire que c'est pas cette attitude-là m'a pas surpris plus que ça vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la façon dont beaucoup de gens se comportent, mais ça me choque toujours un petit peu quand même au fond de moi lorsque je vois cette façon de réagir à ce genre de message de la part de Dieu. Alors bien sûr, ce verset aujourd'hui, si on le cite comme ça sans contexte, ça peut être perçu très vite comme quelque chose de politique. Enfin, vous connaissez les discours des différents partis à gauche, à droite, comment les uns répondent aux autres, et puis en particulier, là j'ai cité le mot étranger, immigré, tout ça, ça peut tout de suite devenir très, très marqué politiquement, et rien que le fait d'aimer ou pas ce verset, ça peut tout de suite vous faire classer là, dans un bord ou l'autre des partis politiques, mais en tant que chrétien, est-ce qu'on ne devrait pas déjà faire abstraction de ce qui est politique pour se concentrer sur ce que la Bible nous dit, elle, clairement, sans tout ce contexte, ce bagage qu'on traîne là, de ce que les gens autour de nous peuvent en penser, pour l'approcher avec une attitude qui est compatible avec le message de la Bible, avec une attitude d'amour. Quand Dieu me recommande une certaine attitude, c'est quoi ma réaction en général? Est-ce que je vais me demander comment je peux appliquer ça pour manifester davantage d'amour autour de moi? Ou est-ce que je vais commencer par chercher des conditions, des limitations pour me dire « bon, ça ne s'applique pas forcément à moi ». Ça, c'est deux attitudes qui n'ont rien de nouveau. Hein. On les trouve depuis la création du monde. Il n'y a rien de spécial là-dedans, au final. Si on regarde même du temps de Jésus, c'était très, très, très classique. D'un côté, vous avez ceux qui voient que la Bible, la parole de Dieu, c'est surtout un catalogue de règles à appliquer, de lois à respecter. Et forcément, quand on le voit comme ça, c'est un fardeau qui est lourd à porter. C'est quand on le voit comme ça, on se trouve que c'est vraiment difficile de supporter tout ça. Et autant qu'on peut, on va essayer d'éliminer tout ce qu'on peut comme règle pour en avoir le moins possible à respecter. Ça, c'est l'attitude qu'avaient les pharisiens vis-à-vis de Jésus. Lorsque eux, ils voyaient plus les textes de la loi comme quelque chose qu'il fallait appliquer à la lettre, qu'il fallait se forcer à respecter, et que ceux qui ne se conformaient pas suffisamment à ça n'étaient pas dignes, à leurs yeux, d'être considérés comme des juifs ou comme des juifs fidèles. Mais à l'opposé, quand on regarde la façon dont Jésus approchait les textes de la Bible, il n'avait pas du tout la même attitude qu'eux. C'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, il s'est opposé à eux dans la façon de comprendre les textes. À chaque fois que Jésus citait un texte, c'était la plupart du temps pour montrer que c'était une occasion de manifester de l'amour pour son prochain. Et on le voit dans les reproches qu'il a adressés souvent aux pharisiens, où il leur disait qu'ils imposaient des fardeaux, ils liaient des fardeaux là sur tout le peuple, qu'ils n'étaient même pas capables de porter eux-mêmes. Lorsque Jésus cite des textes, il dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu vous a donné ces textes-là » C'est pour aimer votre prochain, pour que vous puissiez être capable de lui venir en aide. Et on a cité il y a quelques jours de ça, lorsqu'on a eu notre temps de jeûne et prière, ce passage dans Ésaïe 58, que beaucoup doivent déjà très bien connaître, dans Ésaïe au chapitre 58, les versets 5 à 7, où Dieu critique la façon dont le peuple veut jeûner et prier devant lui. Et par la bouche du prophète, il leur dit « Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?» C'est-à-dire un jour là où tu vas t'humilier, tu vas t'imposer toutes sortes de restrictions, de choses pour montrer que tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Mais Dieu dit « Non, c'est pas ça. » Il dit « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Là, on est quand même quelques siècles avant Jésus et déjà Dieu leur disait « Mais arrêtez d'essayer de vous imposer des règles ou de faire croire que c'est en respectant des règles que vous allez gagner ma faveur. Quand à côté, vous n'êtes pas capable d'appliquer l'essence même de mon message qui est l'amour vis-à-vis de vos frères autour de vous. » S'imposer des règles pour les règles en elles-mêmes, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Respecter des rites comme ça, c'est pas ça qui nous permet de gagner quoi que ce soit. Paul l'a bien expliqué plus tard que finalement, dans la loi, c'est pas d'appliquer la loi qui allait nous sauver. La loi nous montrait surtout notre incapacité justement à nous sauver par nous-mêmes. Et c'est pour ça que il y a besoin, je pense, de s'interroger lorsqu'on entend ce genre de texte sur quelle est notre propre réaction. Lorsque j'entends de la part de Dieu un message qui me demande de manifester de l'amour, est-ce que je vais m'empresser de me dire oui, là je vais aimer encore plus, ou est-ce que je vais commencer par chercher les conditions, les clauses en petits caractères en bas de la page? Bien sûr, on ne peut pas forcément aider toutes les personnes autour de nous, on est limité dans nos capacités. Mais ce n'est pas la même chose de dire je compatis la souffrance de cette personne mais je ne peux rien faire pour elle, que de se dire, dès que j'entends que quelqu'un est dans le besoin, non mais est-ce qu'elle mérite vraiment que je vienne en aide? Est-ce que ça mérite que je fasse un effort ou pas? Ce n'est pas du tout la même attitude lorsque je suis limité ou lorsque moi-même je commence par poser ces limitations. Dans toute sa parole, Dieu nous appelle à être entiers dans notre conduite, à éliminer toute hypocrisie ou duplicité, et ça veut dire que lorsque j'agis d'une manière que je veux chrétienne, lorsque j'agis d'une manière que je veux conforme à la parole de Dieu, il faut aussi que mes intentions, mes motivations soient en accord avec ça. Je ne peux pas d'un côté avoir mes règles que je vais respecter, et puis d'un autre, des motivations qui ne sont pas celles que la parole de Dieu me demande pour accomplir tout ça. C'est pour ça que régulièrement aussi la parole de Dieu nous rappelle que lorsque je décide de m'engager avec Dieu, je décide de faire ce que Dieu me demande, je ne peux pas y aller à reculons. Dans Luc au chapitre 9 au verset 62, Jésus disait « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est-à-dire que celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, il doit le faire parce qu'il sent que c'est là qu'il doit aller, pas parce qu'il se dit peut-être il faut que je respecte ces règles-là, peut-être qu'il faut que je suive ça. Et puis, mais en même temps, au fond de lui, il n'a pas vraiment envie. Non. Si je veux vraiment m'engager avec Dieu, il faut que mon cœur tout entier aille dans cette direction-là. Moi, je me suis réjoui d'entendre ce don spirituel qu'on a eu tout à l'heure qui nous rappelait que la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour, c'est pas une relation de règles et de lois. Et c'est là-dessus que j'aimerais me pencher encore plus maintenant. En commençant par vous rappeler que Dieu nous a donné l'exemple en premier. Vous savez que la Bible, c'est une histoire d'amour du début à la fin, une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. C'est le récit de la façon dont Dieu a voulu manifester son amour aux hommes et puis l'invitation qu'il leur adresse pour y répondre. Et s'il y a une leçon que nous enseignent les Écritures concernant l'amour de Dieu, c'est que lui, il l'a mis en pratique sans arrière-pensée. Lorsque Dieu nous a manifesté son amour, en particulier en envoyant Jésus-Christ à la croix, il nous a aimés sans condition. Dans Romains au chapitre 5, Et au verset 8, l'apôtre Paul dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Autrement dit, Christ est mort à la croix alors que nous n'avions encore rien fait pour le mériter. Christ est mort à la croix pour nous sans que nous-mêmes nous ayons eu quoi que ce soit à faire pour le convaincre que ça valait le coup. Christ est mort à la croix pour tous ceux qui voudraient bien accepter son amour. Dans Jean chapitre 3, verset 16, vous savez comment Jésus l'exprime en disant « Mais le Fils est venu mourir afin que quiconque croit ait la vie éternelle. » Ce n'était pas limité à certains, il ne l'a pas limité juste aux Juifs ou juste aux rabbins, juste à ceux qui avaient la meilleure connaissance de la loi à l'époque, non. Dieu a envoyé son Fils mourir pour tous, sans condition. Et c'était pas rien que d'aller jusqu'à la croix pour Christ. Lorsque Jésus est venu jusqu'à nous pour accomplir son ministère, il l'a fait en connaissance de cause. Lui, en plus, savait ce qu'il attendait devant. Il savait ce à quoi il s'exposait. Philippiens chapitre 2 nous rappelle que nous sommes appelés, nous aussi, à avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ. Et c'est quoi ces sentiments? C'est le fait qu'il n'a pas regardé sa condition divine, il n'a pas regardé sa gloire comme des choses auxquelles il devait s'attacher, là, qu'il devait essayer de préserver pour éviter de faire ce qu'il avait à faire. Au contraire, lorsque il a répondu à cet appel, ça a été de tout son cœur. Même lorsqu'on voit Jésus prier à Gethsémané avec cette souffrance en voyant ce qu'il attend, qu'il est là à quelques heures de la mort, et qui s'adresse au Père en disant « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, dis toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus s'est jamais adressé au Père en commençant à chercher des conditions. « Et si je faisais comme ça, peut-être que ça pourrait éviter, ou alors peut-être que si on faisait autrement, il y aurait moyen d'éviter ça. » Non, il a simplement exprimé la souffrance, l'angoisse qu'il pouvait y avoir dans son cœur à cette perspective, de mourir sur la croix et puis d'être séparé du Père pendant un temps. Mais aussitôt, il a insisté, non, mais même si ça me fait souffrir de penser à ça, de savoir ce que je vais traverser, Père, ta volonté et pas la mienne. L'attitude que Christ a eue, c'est une preuve d'amour de sa part, parce qu'il a agi de cette manière-là sans rien attendre en retour. Il a été jusqu'au bout en sachant même que certains allaient refuser l'amour qu'il allait leur témoigner. L'amour que Dieu a manifesté en Christ, c'était l'exemple suprême de l'amour, là, qui est vraiment désintéressé, qui agit pour ceux qu'il aime sans rien attendre en retour du tout. C'est l'amour qui s'offre sans rien exiger. Ça, c'est l'exemple de l'amour que Dieu veut nous donner et qu'il veut nous appeler à suivre. Alors, lorsque Dieu nous donne cet exemple d'amour à suivre, il tient qu'à nous de chercher à le manifester aussi de la même manière. Et on est appelé à aimer. C'est comme ça que Jésus a résumé l'ensemble de la parole de Dieu. Vous vous rappelez, c'est deux commandements d'amour. Et il a dit, c'est avec tout ça, on a résumé toute la loi, tous les prophètes. Toute la parole de Dieu, elle se résume à ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais suivre cet exemple, faire preuve d'amour, ça implique plus que simplement des paroles de notre part. Ça implique aussi une attitude, ça implique des actions, un comportement qui sont conformes à ce qu'on est en train de dire. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Ce n'est pas le tout de dire que j'aime quelqu'un, que j'aime Dieu, que j'aime les personnes autour de moi, si ma conduite, mon comportement démontre le contraire. Nous sommes appelés à aimer, là, pas seulement sur le papier, pas seulement en théorie, avec une certaine confession de foi, confession d'amour, mais surtout par nos actes, Et le premier que nous sommes appelés à aimer, c'est Dieu lui-même. Toujours l'apôtre Jean, au chapitre suivant, au verset 19, dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que je disais au travers de l'exemple qu'il nous a donné, mais forcément ça doit susciter une réaction de notre part qui est à la hauteur de ce que nous avons reçu de Dieu. Dieu nous a démontré un amour tel à notre égard que la réaction naturelle de notre cœur, ça devrait être de l'aimer aussi en retour, de vouloir lui témoigner autant d'amour que ce que lui nous a manifesté, même si nous savons bien que c'est impossible d'arriver à son niveau. Jésus, au travers de... dont les paroles sont rapportées dans l'évangile de Jean, disait que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc ça veut dire que si j'aime Dieu, la première chose à faire, ça va être effectivement de respecter sa parole, ça va être de suivre sa parole. Mais ce n'est pas la suivre, comme je disais au début, parce que c'est une loi qui nous a imposée, ce n'est pas la suivre parce que ce sont des règles qu'on doit absolument respecter, c'est les suivre parce qu'on l'aime et qu'on a envie de faire ce qui lui plaît. Ce sont des paroles qui sont là pour nous guider et parce que nous aimons Dieu, nous avons envie de lui être agréable, nous avons envie de l'écouter, nous avons envie de le servir. Aimer Dieu et sa parole, ça veut aussi dire le faire passer avant le reste. Ça veut dire lui donner la priorité dans les différents domaines de notre vie, que ce soit dans l'utilisation que nous faisons de notre temps, de notre argent, dans les projets dans lesquels on se lance, dans les choix qu'on peut faire même professionnellement. Est-ce que lorsque je me lance dans un projet, c'est parce que ce projet-là m'attire et me plaît, parce que c'est un sujet que j'aime bien personnellement, ou est-ce que c'est parce que derrière, je sais que ce projet peut être utile au royaume de Dieu ? Est-ce que je vais choisir un emploi ou un autre parce que c'est celui qui va me rapporter le plus d'argent ou parce que c'est celui où je vais avoir l'occasion peut-être de témoigner ? C'est des questions comme ça que nous sommes amenés à nous poser avant de faire nos propres choix, peut-être se dire « mais j'aime Dieu, alors est-ce que le choix que je vais faire lui plaît ? Est-ce que c'est compatible avec ce que Dieu attend de moi ?» Dans un couple, lorsque on doit faire des choix importants, en général, du moins si le couple se porte bien, les deux discutent, et puis on s'assure qu'on ne fait pas un choix tout seul de son côté pour après aller informer son conjoint, j'ai choisi de changer de travail là, et puis j'ai pris une mutation à l'autre bout de la France. Non, on s'assure d'abord, avant de faire les choix, qu'on est bien sur la même longueur d'onde, mais avec Dieu c'est pareil, on va commencer par se poser la question avant de s'engager dans quelque chose, est-ce que c'est bien là que Dieu me veut, est-ce que c'est bien ce que Dieu attend de moi ? Si je dis que j'aime Dieu, mais que je ne me préoccupe jamais de comment ma conduite, mon comportement peut lui être utile, peut lui être agréable, je me comporte comme le peuple d'Israël dans ce que dénonçait le Seigneur au travers de la bouche du prophète Ésaïe. On l'a vu tout à l'heure dans le chapitre 58, lorsqu'il leur parlait du jeûne, mais à un autre chapitre, au chapitre 29, au verset 13, Dieu disait que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Le peuple disait toujours qu'il aimait Dieu, mais sa conduite, son comportement, c'était pas conforme à ce qu'il disait. Au final, ils avaient oublié qu'ils étaient censés aimer Dieu, pas simplement être son peuple et respecter des lois, respecter des rites, apporter certains sacrifices au temple. Non, ce que Dieu attendait d'eux, c'était avant tout qu'il l'aime et que naturellement ensuite il fasse ces choses. Et si j'ai dit qu'il faut que nos actions reflètent ce que nous ressentons dans notre cœur, et ça va dans les deux sens, c'est qu'il doit y avoir ce lien entre ce que nous ressentons, cet amour pour Dieu, et nos actions. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que parfois ça peut être facile de faire l'inverse aussi. De faire des actes pour donner une impression, pour faire passer un message. Mais n'oublions pas que là, je suis en train de parler de s'adresser à Dieu. Et que lorsque je fais des choses dans l'église, je fais des choses en dehors, soi-disant pour Dieu, lui, il est capable de voir dans mon cœur si c'est la vraie raison pour laquelle je le fais. Lui, il est capable de voir l'amour qu'il y a dans mon cœur. et de voir si c'est vraiment ça qui me pousse à agir de cette manière-là. C'est vrai que parfois, les gens peuvent nous faire remarquer l'hypocrisie lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un et puis qu'on se comporte d'une manière qui n'est pas conforme avec ça. Mais Dieu, lui, il est même capable de nous le faire remarquer dans l'autre sens. Lorsque je fais des choses soi-disant pour lui, mais qu'au final, il voit très bien que c'est pour l'apparence, c'est parce que je me soucie de ce que les autres vont penser, peut-être, et qu'au final, je lui accorde peu d'attention dans mes pensées. Ensuite, nous sommes aussi appelés à aimer l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est son épouse. Et forcément, si j'aime Dieu, je dois l'aimer aussi. C'est difficile d'être ami avec quelqu'un quand on déteste tout leur entourage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça crée vite des tensions, c'est difficile à vivre. Hein. Ça oblige en plus à presque à vivre deux vies séparées là, avec les différents cercles. Et avec Dieu, ce n'est pas possible. Si j'aime Dieu, je dois aimer ce que Dieu aime et je dois aimer son Église. En plus, non seulement je dois l'aimer, mais si j'en fais partie, ben, je fais partie du corps de Christ. Et si je fais partie du corps, normalement, je suis censé avoir envie de prendre soin de mon corps. Tout comme naturellement, en général, on a tendance à vouloir prendre soin de notre corps mortel, notre corps humain. C'est pour ça que Paul utilise cette métaphore à plusieurs reprises. Hein, dans Romains au chapitre 12, dans les versets 4 et 5, il dit « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, et ces organes n'ont pas la même fonction. Et de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et en tant que membres de ce corps, finalement, ben, comme nous sommes des organes qui ont une fonction différente, nous sommes appelés à remplir cette fonction qui nous a été confiée. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, et au verset 24 à 26, il reprend la même image en disant « Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. » Si nous sommes membres du corps, ça veut dire que nous partageons ce même corps avec tout le monde et que nous prenons part à ce que vivent les autres aussi. Nous prenons part à la souffrance de nos frères et sœurs lorsqu'ils traversent des moments difficiles et nous prenons part à leur joie lorsqu'ils traversent des moments plus favorables. Et cet amour-là va devoir se voir dans les actes que nous posons aussi. C'est difficile de dire que nous aimons une église dans laquelle nous ne sommes quasiment jamais présents. C'est difficile de dire que nous aimons l'église quand nous n'avons jamais l'occasion de nous engager, de faire quelque chose pour l'église. Aimer l'église, ça va aller forcément au-delà de s'asseoir sur la chaise une fois de temps en temps. Aimer l'église, et surtout trouver sa place dans l'église, c'est pas seulement se faire des amis ou des relations dans l'église, c'est surtout trouver le rôle auquel Dieu nous y attend. C'est entrer dans le service qu'il a prévu pour nous, pour le bien de l'église. Encore une fois, c'est pas pour notre propre bien, c'est pas pour nous épanouir que nous cherchons à trouver des choses à faire dans l'Église, c'est pour le bien de l'Église. De la même manière que dans l'Épître aux Éphésiens, lorsque Paul cite au chapitre 4 les différents dons qui sont donnés, les différents types de prédicateurs, et qu'il dit, mais ces dons-là, ils sont accordés pour l'édification et pour le bien de l'Église. C'est pas pour que le prédicateur puisse se mettre en avant et qu'on admire qu'il a reçu quand même quelque chose de spécial de la part de Dieu. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est pas qu'on puisse se glorifier de ce qu'on a reçu de Dieu, au contraire. Au contraire, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est vraiment une grâce de sa part. Il n'y a que lui qui peut en être glorifié. Non, Dieu nous attend pour vraiment que nous puissions nous impliquer dans son œuvre, dans son corps, et trouver cette place que nous avons en tant qu'un des organes du corps, un des membres du corps, trouver quelle est la fonction qui nous a été attribuée. Et même la moindre petite tâche que nous faisons dans l'Église, la moindre petit rôle que nous puissions avoir, ça doit être encore une preuve d'amour pour son Église. Et enfin, au-delà même de mon prochain au sein de l'Église, vous savez que nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et c'est n'importe qui notre prochain. C'est n'importe quelle personne que nous croisons. C'est n'importe quelle personne que nous fréquentons. Ça peut être les plus proches de nous au sens de notre famille, de nos collègues, des personnes que nous côtoyons régulièrement, comme ça peut être une personne que nous croisons dans la rue. Et nous sommes appelés à aimer notre prochain de toutes les façons possibles. Premièrement, d'une manière spirituelle, mais aussi d'une façon terrestre. L'aimer d'une manière spirituelle, ben, c'est se préoccuper de son âme. C'est vouloir son salut, c'est vouloir son épanouissement spirituel. C'est vouloir participer à la moisson, comme Luc nous l'a rappelé pour cette année. C'est vouloir semer dans tous les cœurs le message de l'Évangile, parce que ben, c'est pour le bien de ces âmes qui nous entendent. C'est se rappeler que ben, l'évangélisation, ce n'est pas simplement une tâche, une corvée qui nous est donnée. Non, pas du tout. C'est un acte d'amour que nous faisons vis-à-vis de toutes les personnes auxquelles nous nous adressons. L'évangélisation, c'est ce désir de partager ce salut que nous avons reçu, de partager cette grâce que nous avons reçue de Dieu avec les autres, par amour pour eux. De la même manière que Dieu les a aimés, nous voulons les aimer nous aussi. Et c'est vraiment une réalisation qui a une nécessité absolue de partager ça avec tous ceux qui nous entourent, parce que sans ça, ben, eux, ils courent à la perdition, ils vont se perdre loin de Dieu. Mais il faut aussi les aimer d'une manière parfois plus terrestre, plus terre à terre, parce que quand je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et que j'essaie de lui manifester de l'amour d'une manière juste spirituelle, entre guillemets, c'est-à-dire juste à lui témoigner, à essayer de l'évangéliser, de le convaincre de se tourner vers Dieu, et que j'ai rien d'autre autour, ben, le message d'amour, là, ça peut lui passer au-dessus. Tout le monde n'est pas capable de percevoir quel intérêt nous voyons à leur partager ça. Pour certains, c'est « non, mais t'essaies de faire des adeptes, là, t'essaies de convaincre les gens, de les rejoindre à ton point de vue. Où il est l'amour là-dedans ? Tant qu'ils n'ont pas réalisé ce que ça représentait, l'enjeu qu'il y a pour eux à se tourner vers Dieu, ils ne peuvent pas comprendre à quel point c'est une preuve d'amour. Et c'est pour ça que nous sommes aussi appelés à témoigner l'amour de toutes les façons possibles, pour montrer que c'est l'essence même du message de la Bible que l'amour. Dans les textes du prophète Ésaïe qu'on a lus, dans l'épître de Jean, ou même si vous vous rappelez aussi de textes dans l'épître de Jacques, ou dans plusieurs des épîtres de Paul, à chaque fois, les apôtres ou les prophètes ont insisté sur la nécessité de veiller les uns sur les autres et de répondre non seulement aux besoins spirituels les uns des autres, mais aussi terrestres. On l'a vu, si ton frère il est dans le besoin, viens à son aide. S'il manque de quelque chose, viens le soutenir, viens lui apporter ce dont il a besoin. Jacques le disait, c'est pas la peine de dire que j'ai la foi si derrière je ne prends pas soin de mon frère à côté. Lorsqu'il manque de vêtements, qu'il manque de nourriture, et que moi, je regarde, je lui dis, ben, c'est bien, Dieu s'occupera de toi, prends soin de toi, et je ne fais rien du tout pour lui venir, l'aider à subvenir à ses besoins-là. Dans tous ces versets, tous ces passages où nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, à chaque fois, c'est la même chose qui revient, c'est la même idée, cette idée de l'amour. Parce que sans amour, je pourrais peut-être répondre aux besoins de milliers de personnes, et ça n'aurait aucune valeur. Si j'étais suffisamment riche pour venir en aide à énormément de monde, mais que je fais ça avec de mauvaises motivations devant Dieu, ça n'a aucune valeur non plus. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 3, Paul le disait, « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » Alors, j'aimerais vous laisser sur cette pensée-là, de se poser la question de nos motivations à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, ou chaque fois que nous voyons une opportunité se manifester autour de nous. Lorsque j'ai l'occasion de témoigner de l'amour, c'est quoi ma réaction? Est-ce que je commence par me dire « oui, là, je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir manifester l'amour de Dieu » ou est-ce que je commence par faire un pas en arrière pour évaluer la situation, voir si ça s'applique bien dans ce cas-là? N'oublions pas que nous sommes capables d'accomplir des choses qui nous paraîtraient inatteignables parfois par amour. Nous sommes capables de nous surpasser lorsque nous agissons par amour. Et c'est pour ça que l'amour doit être derrière chacune de nos actions, chacun de nos choix. Que ce soit de l'amour pour Dieu, que ce soit de l'amour pour son Église, que ce soit de l'amour pour toutes les personnes autour de nous. En toute chose, nous sommes censés agir avec amour. Vous connaissez ce petit dicton qu'on dit, hein, quand on aime, on compte pas. C'est exactement cette idée-là. Lorsque j'aime, je ne commence pas par poser la question si je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. En général, je me lance d'abord et puis parfois après, effectivement, quand on est un petit peu trop passionné, on se rend compte après coup qu'on s'est engagé dans quelque chose d'un peu trop grand pour nous. Mais lorsque Dieu est avec nous, est-ce que Dieu ne va pas nous aider justement à avoir les capacités pour manifester son amour autour de nous ? Oui, que nous puissions vraiment chercher à cultiver cette pensée, cette motivation dans notre cœur de l'amour. Dieu, lui, est capable de lire au plus profond de nos cœurs. Il sait ce que nous ressentons vis-à-vis de lui, c'est ce que nous ressentons vis-à-vis de notre prochain. Et nous ne pourrons pas lui mentir en agissant comme ça pour l'apparence. Alors, vraiment, cherchons à développer encore plus cet amour dans nos cœurs. Demandons-lui de répandre cet amour dans nos cœurs davantage, que nous puissions vraiment vivre par amour, vivre dans l'amour, vivre pour l'amour. Et tout le reste, finalement, découlera de ça naturellement. Ça coulera de source. Lorsqu'on entendra un verset qui nous appelle à prendre soin de l'un ou de l'autre, on ne se demandera pas s'il a fait ce qu'il fallait pour que je puisse lui venir en aide. On commencera par dire, mais il y a un besoin là, et moi je peux peut-être faire quelque chose. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cet amour inconditionnel dans nos cœurs, comme lui nous a aimés de manière inconditionnelle. Que nous puissions, nous aussi, lorsque nous répondons à son appel, faire comme Christ qui a dit, mais il y a un besoin, Père, me voici, envoie-moi. Que nous puissions laisser de côté toutes ces réticences que nous pouvons avoir, laisser de côté toutes ces choses qui parfois montrent qu'il y a quand même un petit manque, qu'il y a quelque chose à combler encore plus dans nos cœurs. Bien sûr, notre amour à nous, il est loin d'être aussi pur et parfait que celui de Dieu. Eh bien, lorsqu'on s'en rend compte de ses limites, que nous puissions demander à Dieu d'en répondre encore plus dans nos cœurs pour pouvoir arriver à le manifester autour de nous. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es l'amour parfait, Seigneur mon Dieu. Tu l'as manifesté, Seigneur, parce que c'était ta nature. Tu nous as aimés au point d'aller jusqu'à donner ton Fils à la croix pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu t'es abaissé, tu es venu jusqu'à nous sans hésiter, sans attendre quoi que ce soit de notre part. Tu nous as aimés sans condition et tu nous as aimés au-delà de ce que nous étions en droit d'attendre et de mériter de ta part, Seigneur mon Dieu. Oh, combien notre reconnaissance est faible en comparaison de ce que tu accomplis pour nous, Seigneur mon Dieu. Mais ce matin, je veux te demander de répandre cet amour encore davantage dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. De nous aider à grandir davantage dans l'amour, Seigneur mon Dieu. De nous aider à manifester encore plus cet amour autour de nous, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions abandonner, Seigneur, tous les raisonnements, les réticences qui parfois nous empêchent d'être des disciples d'amour, mais qu'au contraire, l'amour puisse être notre première réaction, que l'amour puisse être notre nature, que l'amour puisse être ce qui gouverne tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos choix, Seigneur. Oui, donne-nous d'être à ton image, Seigneur. Donne-nous d'être de ceux qui manifestent l'amour pour tous autour de nous, sans distinction, sans favoritisme, sans nous limiter à ceux avec lesquels nous nous entendons le mieux, Seigneur mon Dieu, mais qu'au contraire, nous puissions aimer tout le monde autour de nous avec ce même amour que tu nous as manifesté, Seigneur, cet amour sans faille, cet amour universel, cet amour parfait, Seigneur. Oui, que nous puissions tous les jours davantage te ressembler en manifestant plus d'amour. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.